soir. Père Céleste, nous ouvrons ta parole avec joie et une forme de crainte quand même, Seigneur. Nous savons que c'est toi qui parles. Nous te prions pour que tu ouvres nos cœurs et que chacun puisse repartir, et moi le premier, avec une parole de ta part, Seigneur. Merci pour ta parole parce que c'est une lumière dans notre vie. Nous te prions simplement pour que tu nous gardes les yeux grands ouverts et les oreilles grandes ouvertes pour pouvoir pénétrer chaque jour davantage tes pensées à notre égard et à l'égard de l'Église. Amen. Bien, alors nous allons aujourd'hui aborder la sixième et dernière étude, dernière prédication sur la première lettre à Timothée. Alors elle s'appuiera principalement sur le chapitre 6 à partir du verset 3, là où nous en étions restés il y a quelques semaines. Donc j'annonce trois parties dans la prédication et puis une exhortation finale qui s'appuiera sur la partie du chapitre 4 qui va s'afficher dans deux secondes. Je crois, Fred, tu m'as dit qu'il y avait un interrupteur 01, là, non ? C'est bon, là ? Sur le côté ? Ah oui, ça devient rouge, c'est ça ? Ah ben voilà. Donc l'exhortation finale s'appuiera sur un passage du chapitre 4 que nous n'avions pas lu à l'époque. Alors, nous abordons la première partie. Paul revient sur le problème des faux enseignants qui sévissaient à Éphèse. On a déjà parlé, c'était l'un des problèmes d'Éphèse. Excuse-moi, là, Fred, j'appuie à droite. Pardon ? Ah, il faut qu'il soit vert. Voilà, il est vert. La fin de la lettre approche. Paul a délivré à Timothée toutes les recommandations qu'il lui destinait, mais il le met en garde à nouveau contre les personnes qui, à Éphèse, enseigneraient autre chose que ce que Paul avait lui-même transmis à Timothée. Et d'après le texte là, que nous allons lire dans quelques instants, on reconnaît ces faux enseignements à ce qu'il s'écarte des paroles de vérité de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement qui est conforme à la foi, qui s'écarte des paroles de vérité de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement qui est conforme à la foi. Donc nous lisons au chapitre 6, pour commencer, les versets 3 à 6. Voici ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autre chose, alors ce que tu dois enseigner et recommander, ben c'est le début de la lettre. Si quelqu'un enseigne autre chose et s'écarte des paroles de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à la foi, c'est un homme enflé d'orgueil, un ignorant qui a une passion maladive pour les spéculations et les controverses sur les mots. Qu'est-ce qu'il en résulte ? Des jalousies, des disputes, des dénigrements réciproques, des soupçons malveillants, des discussions interminables entre gens à l'esprit faussé. Ils ne connaissent plus la vérité et considèrent, stupéfiant, la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. La vraie foi en Dieu est en effet une source de richesse. Quand on sait être content avec ce qu'on a. Alors, ces faux enseignements qui s'écartaient des paroles de vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'enseignement conforme à la foi, vous avez peut-être dans votre traduction, si vous lisez en même temps que moi, un enseignement conforme à la piété, et pas seulement un enseignement conforme à la foi. La foi est un élément de la piété. Mais la piété ne se résume pas à la foi. Alors Samuel Benetrou, dont j'ai cité le livre dans une précédente prédication, précise qu'un enseignement selon la piété, c'est un enseignement premièrement qui honore Dieu et sa parole, et deuxièmement qui peut
porte les fruits attendus. Alors il y a donc dans la piété, selon la définition de ce mot, à la fois l'honneur porté à Dieu et à sa parole, ce qui inclut la foi, mais aussi la mise en place de fruits spirituels en accord avec la parole de Dieu. Or ce n'est pas sans rappeler, je ne développe pas cet aspect-là, mais ce n'est pas sans rappeler la foi d'une part, et puis les œuvres bonnes qui résultent de la foi, comme l'explique par exemple Jacques. Alors, ces faux enseignants, ben, ils sont stigmatisés par des mots très forts. Moi, dans ma traduction, je trouve l'orgueil, l'ignorance, les spéculations, les controverses, et les résultats de ces faux enseignements sont décrits d'une manière particulièrement négative. Il y a là encore des mots très forts, jalousie, dispute, dénigrement réciproque, soupçon malveillant, discussion interminable. Alors on a peine à imaginer l'atmosphère qui régnait dans l'église d'Éphèse lorsque ces faux enseignants étaient à l'œuvre. Ayant perdu tout repère, ces faux enseignants ne connaissaient plus de la vérité, et coup de théâtre, Paul révèle au verset 5, on l'a lu, qu'il considère la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Enrichir leur vie spirituelle ? Non, pas du tout. On pourrait même peut-être penser qu'il s'agit des précurseurs de ce que nous appelons l'évangile de la prospérité. Des gens qui enseigneraient que les croyants ont nécessairement du succès dans le domaine matériel, y compris financier. Non. D'après Samuel Benetro, leurs propos sont encore bien plus graves. Ils espéraient que leur piété extérieure leur attirerait les faveurs de certains dans l'Église, qu'ils n'hésiteraient pas à payer leurs services et leurs enseignements. Ce sont des prédicateurs mercenaires qui, d'une certaine façon, espéraient faire payer leurs services et leurs enseignements dans le but de s'enrichir au sens propre du terme. Alors Paul reviendra d'ailleurs un peu plus loin et à deux reprises sur des considérations liées à l'argent dans cette fin de lettre. Alors, avant d'aborder cet aspect-là, en contraste, il y a le verset 6. Le verset 6 qui nous dit que la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content de ce que l'on a. Alors, par un effet d'opposition, Paul exprime que la source de richesse n'est pas dans l'argent, mais qu'elle réside dans la vraie foi en Dieu. Alors, d'après ce qu'on a dit précédemment, la source de richesse réside, ce que j'ai dit tout à l'heure sur foi et piété, réside dans la piété au sens où elle a été définie précédemment. Et la piété s'accompagne du contentement. Quand on considère ce qu'on a, et pour la plupart d'entre nous, tout ce qu'on a. Alors, le verset 8 précise que tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contentons. On peut peut-être ouvrir une parenthèse. Est-ce qu'il faut comprendre ce verset de manière littérale ? Est-ce que le nécessaire se limite à la nourriture et aux vêtements ? Est-ce que nous devons nous séparer de tout le reste ? Est-ce que nous devons vivre et faire vivre nos proches, qui sont sous notre responsabilité, c'est-à-dire nos enfants, parfois nos ascendants, en se limitant au strict minimum constitué de la nourriture et du vêtement? Alors la réponse n'est pas ici, je pense qu'il faut la chercher ailleurs que dans ce texte, mais il me semble juste de dire que nous devons vivre en tant que chrétiens sans excès, donc sans provocation vis-à-vis de notre prochain. Sans excès, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ni dans le trop, ce qui semble évident, ni dans le trop peu. Dans les deux cas, le trop et le trop peu, la motivation peut être dans certains cas la même. Par exemple, elle peut résider dans une forme d'orgueil, y compris dans le trop, ça, on le comprend bien, mais parfois peut-être le trop peu. Alors, fermons cette parenthèse. L'important dans le verset 8 me semble être le contentement. Être content de ce qu'on a. Nous abordons la deuxième partie maintenant, dans laquelle Paul va détailler quelques considérations liées à l'argent. Et ça à deux reprises dans le texte, à deux endroits différents. Alors, est-ce que ça veut dire que l'argent était un problème pour certains dans l'église d'Éphèse ? Bien sûr, on l'a lu. Est-ce que ça veut dire que nous devons être vigilants vis-à-vis de l'argent ? Très probablement. Alors, dans cette fin de lettre, il y a deux passages qui parlent de l'argent. La première lecture, c'est dans la suite de ce qu'on vient de lire, c'est-à-dire au chapitre 7, versets 7 à 10. Je ne lirai pas le verset 8 parce qu'on l'a déjà lu. Verset 7. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Je saute donc le verset 8. Verset 9. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour lui avoir ouvert leur cœur, pardon, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Alors, Paul cite, entre autres, pas seulement, mais entre autres, des paroles populaires qui sont probablement connues de ses auditeurs. Typiquement, le verset 10, « L'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux », M-A-U-X, hein, ben, ça serait un proverbe populaire qui a été retrouvé dans la littérature de l'époque, la littérature populaire de l'époque. Le verset 7, à mon avis, ressemble à une parole aussi sortie de la sagesse populaire. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Alors, le pasteur de l'église que nous venons de quitter à Grenoble dit souvent que, il l'a dit plusieurs fois, je l'ai entendu plusieurs fois, dire que les vêtements dont on habille les morts n'ont pas de poche. Alors, il est suisse. Peut-être qu'on dit ça dans son pays. Hein, je ne suis pas suisse, je ne sais pas. Mais si on dit en Suisse, peut-être qu'on le dit aussi dans le Chablais, qui n'est pas très loin de la Suisse. Enfin bref, les vêtements dont on habille les morts n'ont pas de poche. Mais Paul ne se limite pas à quelques paroles proverbiales. Il mentionne que l'argent est source de tourments. Pour lui avoir ouvert leur cœur, il parle de l'amour de l'argent, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Paul d'ailleurs fait une bonne mesure hein, dans ces versets. Ils ne se sont pas égarés loin de la foi, mais dans ma traduction, ils se sont égarés très loin de ma foi. Ils ne se sont pas infligés des tourments, mais dans ma traduction, ils se sont infligés beaucoup de tourments. Paul décrit aussi au verset 9 comment l'amour de l'argent peut agir dans une vie. On relit ce verset. « Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. » Paul décrit ici un enchaînement mortifère, un enchaînement qui conduit à la mort, qui commence par l'amour de l'argent, qui passe ensuite par la tentation, qui passe ensuite par des désirs insensés et pernicieux, c'est-à-dire nocifs et nuisibles, et puis qui débouche sur la ruine et sur la perdition. Voilà à quoi, dit Paul, conduit l'amour de l'argent. Alors, il condamne ici non pas la possession de l'argent, pas dans ce texte en tous les cas, mais il traduit l'amour de l'argent. Deuxième lecture. Alors, dans une deuxième lecture, il s'adresse plus spécifiquement à ceux qu'on appelle les riches, ceux qui possèdent effectivement, on dirait plus que la moyenne peut-être, je ne sais pas si c'est ça son idée, des richesses, et il leur adresse un certain nombre d'exhortations. Donc, deuxième lecture sur l'argent, un peu plus loin, on saute quelques versets, on y reviendra, chapitre 6, versets 17 à 19. Recommande à ceux qui possèdent des richesses, en ce monde, de se garder de toute arrogance, et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront aussi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. La première exhortation, facile à comprendre, a trait au comportement. Se garder de toute arrogance. L'arrogance est celui qui manifeste un orgueil blessant à l'égard des autres. Je suis plus riche que toi. Je suis plus riche que toi. Sous-entendu, je suis meilleur que toi. Ça, c'est l'arrogant qui peut se manifester, son arrogance de diverses façons. La deuxième exhortation me semble plus profonde. Il s'agit pour les riches de faire le bon choix pour gouverner leur vie. Le choix de la facilité pour les riches serait de fonder leur espoir sur la richesse. On aurait pu lire, on n'a pas le temps, mais on aurait pu lire dans l'Évangile cet homme qui veut construire des greniers. Ça, c'est la solution de facilité. Et cette voie est sans issue parce que la richesse est instable. La richesse est instable, c'est-à-dire une fortune peut s'écrouler en un instant. Il y a des exemples, il suffit de regarder la télévision, lire le journal, d'un jour à l'autre, on peut passer 3 mois dans une prison japonaise en un instant. Le bon choix consiste, à l'opposé, à placer notre espérance en Dieu, lequel, d'après le texte, dispense généreusement toutes ses richesses pour que nous en jouissions. Alors, j'ai eu envie de m'arrêter quelques instants sur cette courte portion de phrase. À qui Paul s'adresse-t-il? Dans le paragraphe, il s'adresse aux riches. Mais pas seulement. Il s'adresse à tous. Ou alors tous sommes-nous riches d'une certaine façon. Le pronom « nous » montre que nous sommes tous concernés. Et pas ceux qu'on considère comme étant les riches extérieurs à nous. Il dit ensuite que Dieu dispense ses richesses. Ses richesses. Si nous avons des richesses, et nous en avons tous, rares ou nombreuses, elles ne sont pas le fruit de notre travail acharné. Elles ne sont pas le fruit de notre intelligence hors du commun. Elles ne sont pas le fruit de notre chance exceptionnelle. Non, non. Elles sont le don de Dieu. Ce sont les richesses de Dieu. D'ailleurs, Dieu ne dispense pas des richesses. Il dispense ses richesses, celles qu'il possède, les richesses de Dieu. Ensuite, Dieu ne fait pas les choses petitement. Il ne dispense pas ses richesses, mais toutes ses richesses. Il l'a encore dit qu'il le fait, dans ma traduction, généreusement. Enfin, Dieu ne dispense pas toutes ses richesses sans un but. Il dispense toutes ces richesses pour que nous en jouissions, pour que nous en profitions. Et d'autres passages, on aurait pu les lire aussi, on ne le fera pas faute de temps. Ils nous disent que nous devons le faire sans honte, mais avec reconnaissance. Ce qui nous ramène à l'un des versets que nous avons lus tout à l'heure. Alors, dans ces trois mots-là, dans cette petite portion de phrase, si je peux faire un jeu de mots de facile, je dirais... Que de richesse dans cette courte portion de verset qui contient à peine 10 mots. La troisième exhortation relève du domaine plus pratique encore. Ceux qui sont appelés les riches bien sont exhortés à faire le bien, à être riches en bonnes œuvres, à être généreux, à partager avec les autres. Paul dit aux riches que leur argent n'a pas vocation à dormir sur leur compte en banque, mais pour retenir un seul mot, il a vocation à faire le bien. Ayant d'ailleurs décrit la vocation de l'argent, Paul dévoile une perspective plus lointaine et plus large. Il écrit que par leur générosité, les riches s'assureront pour l'avenir un bon capital en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Donc il a en vue cette banque céleste, avec des guillemets, dont il est question peut-être ailleurs. Nous abordons maintenant la troisième partie, où Paul va adresser à nouveau, il l'a fait au début de la lettre, mais à nouveau, quelques recommandations à Timothée. C'est un peu petit, j'espère qu'on peut lire. Alors, je lis un dernier passage avant l'exhortation finale. Ça se trouve au chapitre 6. D'abord, les versets 11 à 14. Et puis, les versets 20 et 21 tout à la fin de la lettre. Je ne lirai pas les versets 15 à 16, qui est une sorte d'hymne à Dieu. Deux versets, mais sur lesquels il y aurait tellement à dire que ce sera pas lu. Alors, 11 à 14 d'abord. Mais toi, homme de Dieu, fais toutes ces choses, recherchant d'abord la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait une belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi. Observe le commandement en restant pur, irréprochable, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que Dieu suscitera au moment fixé. Et puis les deux derniers versets. Ô Timothée, garde intact ce qui t'a été confié. Évite, parce qu'ils sont contraires à la fois les discours creux et les arguments de ce qu'on appelle à tort la connaissance, entre guillemets, pour s'y être attaché, plusieurs se sont égarés très loin de la foi. Ces propos sont marqués par le mode impératif. Ce sont donc bien des exhortations. Des exhortations d'un père spirituel à son enfant spirituel. Et le vocabulaire montre que ces exhortations sont pressantes. Recherche ardemment, dit-il. Il dit pas recherche, il dit recherche ardemment. Il dit, je t'adjure solennellement. Adjurer, c'est un verbe très fort. Adjurer, j'ai regardé dans le dictionnaire, d'après Larousse, ça veut dire sommer au nom de Dieu, faire une sommation au nom de Dieu. Et en plus, il l'adjure solennellement. Alors pour certaines de ces exhortations, Paul demande à Timothée de se protéger. Au verset 11, il lui dit, fuis toutes ces choses. Il venait là justement de parler de l'amour de l'argent, et il exhorte Timothée à s'en protéger en fuyant. Au verset 20, il dit, évite, parce qu'ils sont contraires à la foi, les discours creux et les arguments de ce qu'on appelle la connaissance, entre guillemets. Évite. Donc il y a un premier type d'exhortation, fuis ces choses. Et par d'autres exhortations, alors il fixe aussi à Timothée des objectifs plus constructifs, même si la fuite est nécessaire dans un certain nombre de circonstances. Ainsi, au verset 11, vous avez vu passer cette liste, Paul exhorte Timothée à rechercher six attitudes morales. La droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance et l'amabilité. Bon, on ne peut pas attacher une importance trop grande à des listes, parce qu'une liste n'est jamais limitative, mais là, on a en quelque sorte, dans la bouche de Paul, la description d'un équipement que Timothée doit rechercher, et assez normalement, que nous devons aussi rechercher. Paul n'hésite pas à replacer ses exhortations dans une perspective plus vaste. Autrement dit, les exhortations de Paul, ce n'est pas simplement des cases à cocher. Oui, j'ai atteint cet objectif, non, je ne l'ai pas atteint. Au verset 12, Timothée doit combattre le bon combat de la foi et saisir la vie éternelle que Dieu lui a appelé à connaître en se souvenant de la belle profession de foi qu'il avait faite. Probablement lors de son baptême, ou peut-être lors de son baptême. Au verset 13, Timothée doit observer le commandement. Le commandement, c'est l'ensemble de ce qui est commandé hein, aux croyants, en se souvenant cette fois-ci de la belle profession de foi de Jésus-Christ lorsqu'il témoigna devant Ponce Pilate. Alors, Timothée doit également observer le commandement en restant pur et irréprochable, avec la perspective, encore à venir cette fois-ci, du retour de Christ. Bref, ces exhortations de Paul à Timothée ne sont pas seulement des listes d'attitudes morales que Timothée doit rechercher. Paul les replace dans une perspective plus large, soit en reportant le regard de Timothée vers le passé, avec sa propre profession de foi, avec celle de Jésus-Christ devant Pilate, soit au contraire en portant son regard vers la fin des temps avec le retour de Jésus-Christ. Alors toujours dans le registre des recommandations de Paul à Timothée, il est maintenant possible de se reporter au chapitre 4, à l'époque une dizaine de versets avaient été mis de côté. Alors on va considérer cette exhortation de versets comme une exhortation finale, où Paul s'adresse à nous directement à travers les siècles. On va retenir juste quelques idées, pas regarder le texte dans le détail par le menu. Je vous propose de lire à partir de la deuxième partie du verset 7 et jusqu'au verset 16. J'extrairai deux ou trois points. Encourage. Donc je suis chapitre 4, deuxième partie du verset 7. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique a son utilité, certes, mais il est limité. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. En effet, si nous nous donnons du mal, si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le bienfaiteur de tous les hommes. Vous avez peut-être le sauveur dans votre traduction si vous lisez avec moi. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le bienfaiteur de tous les hommes et au plus haut point de ceux qui se confient en lui. C'est là ce qu'il faut recommander et enseigner, que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Ne laisse pas en friche le don qui t'a été fait par grâce et qui t'a été accordé, conformément à des paroles inspirées par Dieu, par les responsables de l'Église, qui t'ont imposé les mains. Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, sois persévérant en cela, en agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Ce qui, moi, m'a sauté aux yeux dans ce passage, donc là, on donne juste quelques coups d'éclairage, hein, c'est l'accumulation de termes qui marque dans la vie chrétienne la nécessité d'un engagement réel, profond et j'ose dire même parfois contraignant, c'est-à-dire possédant ses contraintes. Dans ce passage qui comporte 10 versets exactement, on trouve successivement les idées suivantes. J'emploie les mots que j'ai sous les yeux. L'idée de s'entraîner, l'idée de s'attacher à Dieu, l'idée de se donner du mal, l'idée de lutter, l'idée de s'efforcer, l'idée de se consacrer, l'idée de ne pas laisser en friche, l'idée de prendre les choses à cœur, l'idée de se consacrer encore, l'idée de veiller et l'idée d'être persévérant. C'est ce qui m'a sauté aux yeux dans la lecture du passage, l'accumulation de ces termes-là. 11 expressions sur 10 versets. Vous avez peut-être d'autres expressions dans vos Bibles, peu importe. Toutes expriment la nécessité de cet engagement réel, profond et même parfois contraignant. Lequel ne concerne pas seulement Timothée, mais concerne, à mon avis, chaque chrétien. Donc, nous concerne, nous, personnellement. À nous de nous engager sur ce chemin de service, comme des ouvriers avec Dieu, et par la grâce de Dieu, comme de bons ouvriers. Alors, cet engagement, comme tout à l'heure, n'est pas une liste de cases à cocher. Paul développe certains aspects de cet engagement. Il y a d'abord l'attachement à Dieu auquel nous devons nous entraîner et que c'est utile à tout, utile dans notre vie quotidienne, mais utile aussi dans la perspective des temps à venir. Ça, c'est le verset 8 que nous avons lu. Et dans l'attachement à Dieu, bien, je crois qu'on retrouve la piété qui a été mentionnée une à deux fois dans le début de la prédication. Se donner du mal à lutter, c'est aussi une réponse au bienfait que Dieu accorde à tous les hommes. Là, je crois qu'on peut relire le verset 10. Verset 10, en effet, si nous nous donnons du mal, si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le bienfaiteur de tous les hommes, et au plus haut point de ceux qui se confient en lui. J'ouvre une parenthèse. Certainement, votre Bible, à l'instant là où l'endroit où j'ai lu, ont l'expression « Dieu est le sauveur de tous les hommes », là où j'ai lu « Dieu est le bienfaiteur de tous les hommes ». Alors, j'ouvre une parenthèse pour dire quelque chose qui est un peu évident, mais qui mérite d'être rappelé. Il ne faudrait pas croire, ni que tous les hommes sont sauvés, même si le salut est offert à tous, ni que nous gagnons notre salut en nous donnant du mal et en luttant, puisque le salut est la conséquence de la foi seule en l'œuvre de Christ. Il faut simplement savoir que le mot salut recouvre plusieurs réalités, et pas seulement le fait d'échapper aux souffrances éternelles par le moyen du sacrifice de Christ. Il me semble, ici, mais je ne suis pas spécialiste, que la traduction de bienfaiteur dans le contexte est plus cohérente que la traduction de sauveur. Une idée supplémentaire, Paul met en avant ici la parole, nous dirions peut-être la communication de la parole dans le ministère de Timothée. C'est là ce qu'il faut recommander et enseigner, lui dit-il. Consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication, à l'enseignement, ajoute-t-il. Communiquer est une chose. Mais Paul demande aussi à Timothée d'être un modèle, c'est-à-dire de communiquer par son attitude. Aussi, des paroles, certes, mais aussi sa conduite, sa foi, sa pureté. Rien n'est acquis dans ce domaine, puisque tout le monde, dit le texte, doit être frappé des progrès de Timothée. Ça veut dire que si je m'applique ces versets à moi, tout le monde autour de moi, vous, mais aussi les gens là qui passent, que je rencontre, doivent être frappés de mes progrès dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de leur œuvre, dans la connaissance de leur plan, etc., etc., etc. Plus encore, Timothée doit veiller sur lui et sur son engagement, son enseignement, pas seulement sur son enseignement, mais aussi sur lui. Ça, c'est l'idée du modèle, là, qui a été signalée il y a quelques instants. Et tout ça, c'est un programme vaste, qui est aussi le nôtre que celui d'être un modèle pour ceux qui nous entourent, et cela, disons-le tout de suite, avec l'aide et avec la grâce de Dieu. On n'est pas modèle parce qu'on se décide de se lever ce matin-là en disant « je vais être modèle ». On ne peut devenir un modèle qu'avec l'aide de Dieu et par sa grâce. Voilà ce que je pensais vous dire sur la première lettre à Timothée. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous avez aussi appris un certain nombre de choses. Je vous propose maintenant de prier, et puis je reprendrai ma place. Père Céleste, nous te prions pour que tu puisses nous garder dans l'alignement de ta parole et nous épargner dans nos vies propres et dans notre vie d'église les spéculations, les controverses telles que Paul les évoque ici. Seigneur, nous te prions pour que tu veilles sur nos vies dans ce domaine et que tu veilles sur ton Église dans ce domaine. Te prions aussi pour que tu nous gardes chacun dans le contentement. Te prions et te remercions pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu nous donnes, le nécessaire et bien souvent au-delà. En particulier, nous te prions pour que tu nous gardes de l'amour de l'argent et des déviances qui en résultent. Veille sur nos pensées, veille sur nos décisions, veille sur nos actions, Seigneur. Nous te prions aussi et par-dessus tout pour que tu nous gardes attachés à toi, à ta personne et à ton œuvre, que tu nous gardes sérieux dans notre marche chrétienne, Seigneur. Et nous te prions pour que dans notre conduite, dans notre service, avec les forces que tu nous donneras, et par ta grâce, nous puissions être des modèles là où tu nous as placés. Merci notre Dieu pour ces lectures répétées de la première lettre à Timothée. Nous te prions pour que ces paroles qui sont les tiennes puissent porter du fruit dans nos vies. Et nous te remercions parce que ta parole est celle qui nous nourrit et qui nous fait grandir. Amen.